porter la cour.
La liberté que nous voulons. L'émission de l'association pour une constituante.
Car ils pensent comme moi que rien ne vaut mieux ma foi qu'une qu'une république bien démocratique.
www.pouruneconstituante.fr.
Bonjour, Nathalie sur Radio Doc. Je commencerai bien cette chronique par Triste France, cher pays de mon enfance, mais plus bercé par tant d'insouciance, plutôt d'indifférence, d'inquiétude, pas très optimiste aujourd'hui, atteinte du syndrome anti-49-3. Je rappelle que l'article 49, alinéa 3 de la Constitution, permet de faire adopter sans vote un projet de loi. Pour couper court au vote et adopter un projet de loi si aucune motion de censure n'est votée contre le gouvernement par l'Assemblée nationale. Et hélas, elles ne peuvent être rejetées. Aïe, 49-3 pour le projet de loi retraite. Ouille, 49-3 pour le projet de loi finance. Bip bip, 49-3 pour le plein emploi. Olivier Dussopt ne cache pas sa joie. Sur un tweet, le ministre du Travail s'exclame « Très heureux que les députés et sénateurs aient trouvé un accord sur le projet de loi plein emploi. Meilleur accompagnement pour les demandeurs d'emploi et allocataires du RSA. » Ah oui, ils étaient tous d'accord ?
Ah bah bien sûr, France Travail, ça va être magnifique.
Flûte, 49-3 pour le projet de loi finance-budget de la Sécurité sociale. Mais pas que. Flûte, flûte, 49-3 pour le projet des budgets de notre pays. Recettes, dépenses, aligner les chiffres. Oh les coquins de français roubleurs, fainéants et râleurs. Vous coûtez cher à la douce France. Moi je vous dis qu'il faut être en bonne santé, mais aussi beau et riche à la fois pour vivre dans notre société. Vous êtes sur le bas-côté ? Allez, un petit 49-3 pour la loi immigration. Maintenant, c'est au Sénat d'examiner le projet de loi en séance publique à partir de lundi prochain, 13 novembre. Eh oui, mais enfin, écoutez, on va se consoler. Il y a quand même quelques députés qui travaillent, comme ces fameux sénateurs qui ont voté la loi qui encadre la nouvelle écriture inclusive, par exemple. Citoyens, citoyennes.s. Comme le président Macron était fier d'exalter notre langue française à la Cité internationale de la langue française. Au château, mon plaisir à Villers-Cotterêts. Comme François Ier, notre président aime les châteaux, figurez-vous. Et il décida d'en faire quoi ? Le fleuron de son règne. En le restaurant. Ce qui coûtera à la France, budget dépenses, bling bling, 210 millions d'euros. Quelle volonté et que de flouze pour défendre notre belle langue. Je rappelle toutefois que c'est dans ce château que Molière fit représenter son Tartuffe pour la première fois. Petit rappel à nos politiques de tous bords. La Révolution française était un mouvement politique, social et culturel qui a éclaté en 1789 en France et qui a conduit à la chute de la monarchie, à la montée au pouvoir de la République, à des réformes politiques, économiques et sociales majeures et même à des bouleversements dans toute l'Europe. Ah, le rayonnement de la France par le monde. La Révolution française a été motivé par des idéaux tels que la liberté, l'égalité, la fraternité. Moi je dis attention, les chiffres de l'INSEE parlent et sont très inquiétants. Aujourd'hui, de ce peuple pauvre et en colère, je lis qu'en France, le seuil de pauvreté monétaire est fixé à 60% du revenu médian, soit 1850 euros par mois. Une personne est donc pauvre si ses revenus mensuels sont inférieurs à 1102 euros. On estime, en 2023, mais c'est pas moi qui le dis, c'est l'INSEE, que 11 millions est le nombre actuel de pauvres, soit 17% de la population quand même, dont la moitié vivent avec moins de 885 euros par mois. Pauvre France. Bon, plutôt que de mal la chanter, ah oui, Poupa.
Je vais même rajouter un chiffre qui va finir de vous achever. Chaque nuit, en France, 2800 enfants dorment dehors.
L'horreur. Ouais, on a vu les mêmes chiffres.
2800 enfants tous les soirs dorment dehors.
Inacceptable dans notre triste France. Ben là, je vais laisser. Je vais vous laisser avec une chanson de Rachid Tahar. Bon, vous allez reconnaître tout de suite le titre. Allez. On écoute.
Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Il revient à ma mémoire des souvenirs familiers. Je revois ma blouse noire lorsque j'étais écolier. Sur le chemin de l'école, je chantais à pleine voix des romances sans parole, vieilles chansons d'autrefois. Douce France, cher pays de mon enfance, bercé de tant d'insouciance, je t'ai gardé dans mon cœur. Aux maisons sages, où les enfants de mon âge ont partagé mon bonheur. Oui, je t'aime et je te donne ce poème. Oui, je t'aime dans la joie ou la douleur.
Merci à Charles Trenet pour cette Douce France, une chanson de 1943 et qui est reprise par le public bien souvent, par les écoles. Et à l'époque, pendant la guerre, chanter cette chanson-là, c'était pour les soldats qui étaient loin de chez eux, un acte en gros de résistance. Mais à la Libération, j'apprends que c'est une chanson pétiniste. Alors.
Oui, enfin, même Charles Trenet a été inquiété à la Libération. Parce que lui, il a continué à sortir pendant l'occupation. Et donc, on l'a accusé alors qu'il n'y avait aucune forme de collaboration chez Charles Trenet.
Ouais.
Mais il a été inquiété quand même.
Ouais.
Et on a chargé la mule en disant que Douce France était une chanson pétiniste et d'autres chansons. Mais je pense que...
Oh, mais comme quoi on peut changer quand même vite d'avis sur peu d'années, parce que
oui,
on est passé...
Oui, mais je pense que c'était plus un procès homophobe que
ouais.
Autre chose.
Je pense bien,
voilà.
Je pense bien aussi. Bon, enfin, cela dit, j'ai été voir sur le programme donc, de l'Éducation nationale dans les chansons sélectionnées, cette chanson à lier, et effectivement, il y a une fiche pédagogique assez intéressante à lire, et assez croustillante, je dirais. Mais bon, allez voir, allez voir. Bon, je continue. Alors, je vais continuer d'une façon un petit peu moins en colère et plus sereine. Parce qu'il y a quand même des bonnes choses qui se passent autour de moi, autour de nous, je ne sais pas, mais bon. Dans un article, donc, paru le 13 octobre, donc, par notre association pour une constituante, sur notre site, on s'interroge. Va-t-on enfin parler sérieusement de réformer les institutions ? Voilà des années, des décennies que la question est posée, sans que les responsables s'en inquiètent. La loi retraite restera sans doute perçue comme un tournant. Il faut que la parole soit libre, justement, pour reconstituer le lien social, pour reconstituer la vie politique. Nous pensons, et avec l'aide d'associations citoyennes actives, et il y en a plein, si vous saviez, je crois qu'on est... à ce jour, plus de 60 dans la coalition citoyenne, qui travaillent sur la question institutionnelle, sans compter sur la bonne volonté de certains citoyens, qui, par ce processus, ont envie de participer à nouveau à la vie politique. Ce qui n'était pas jusque-là le cas. On ne peut que donc s'en réjouir. Nous devons aboutir à créer effectivement la réflexion. Et donc, la solution à la question ? Les institutions, c'est quoi ? Comment ? Tel est le travail qui s'offre à nous, citoyens. Cela s'appelle quoi ? La démocratie. Alors, un groupe formé donc dans cette coalition citoyenne, avec des représentants de nombreuses associations qui militent partout en France, pour le renouveau démocratique, dont fait partie notre association, l'APUC, l'association donc pour une assemblée constituante, organise le 11 décembre prochain une conférence à l'Assemblée nationale. Oui, vous m'avez bien entendu, à l'Assemblée nationale, à Paris, avec le groupe LIE. Groupe qui a incarné la volonté d'un débat démocratique sur la loi retraite en déposant une motion de censure rassembleuse et qui a bien voulu, figurez-vous, répondre à notre demande de rendez-vous. Et dans un deuxième temps, notre groupe local Castelmoissac, qui s'associe aussi à l'association des Gilets jaunes du Tarn-et-Garonne, qui travaille actuellement sur la Constitution pour s'initier et participer au débat politique de ce pays, eh bien, une rencontre s'organise sur un projet de fond. Et ça se fera le 2 décembre. Encourageant quand même tout ça, non ? Ou pas ?
Absolument, très encourageant.
Que d'accord, que d'accord. Il est temps, figurez-vous, chers politiques, de commencer à débattre sérieusement afin de ne pas donner le sentiment à la population qu'on lui impose des mesures injustes qui suscitent systématiquement le rejet. Il est grandement temps de laisser la possibilité pour le peuple de trancher, mais en toute connaissance de cause, afin de redonner quoi ? Du sens à la chose publique. C'est ambitieux, non ? Non, 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 c'est pas si ambitieux que ça, c'est plutôt anticipateur. Notre avenir politique et notre contrat social sont en jeu, car les partis politiques, toutes tendances confondues, ne font plus recette et le scepticisme engendrera pour les prochaines élections présidentielles abstention et regain pour l'extrême droite. On peut s'attendre à tout en 2027. Sauf si nous, petit peuple français, aurions décidé de ne pas nous exclure de la politique de notre pays. Certains pensent que la question des retraites, de la sécurité sociale, des budgets, de l'éducation nationale, de l'immigration est trop technique et que le citoyen ordinaire ne peut pas s'y retrouver ni comprendre. La politique économique est une affaire d'experts, les amis, d'élite. Et pas que, l'affaire aussi de cabinets privés au service du public et qui nous coûte cher. Non, non, citoyens, citoyennes, citoyennes.s, quand on veut, on peut. Et c'est à nous de le prouver. Sans doute ont-ils oublié nos chers politiques, le référendum de 2005, et oui, je le rappelle à chaque fois, je sais, hein, sur le traité constitutionnel européen. À l'époque déjà, on disait que le sujet était trop complexe pour le petit peuple. Et pourtant, à l'issue des débats, d'explications nourries par le cadeau envoyé à chaque Français, donc je ne sais pas si vous en souvenez, la Constitution européenne écrite, hein, le petit livret. Le non triompha, ce qui n'empêcha pas le traité de passer et d'être mis en œuvre quelques années plus tard via le traité de Lisbonne.
Et je veux rajouter que non seulement le non triompha, mais dès le lundi, on se faisait insulter par un éditorial du journal Libération en disant qu'on était tous des cons, qu'on n'avait rien compris, pourquoi on avait voté contre.
Voilà, donc, tout un parcours encore à gagner. Je rappelle dans un article du Monde, le juriste Alain Supiot, professeur émérite au Collège de France, écrit « Un gouvernement avisé doit se garder de mépriser la démocratie sociale. Ce dernier concept a été repris dans le préambule de la Constitution, rédigé celle de 1946, pour définir une république indivisible, laïque, démocratique et sociale. » On oublie trop souvent cette dualité de la vie politique qui s'appuie à la fois sur la légitimité des élus du suffrage universel et sur celle des organisations qui permettent aux citoyens d'intervenir pour défendre le monde du travail mis à mal par les dogmes du néolibéralisme. Or, en voulant imposer la réforme des retraites à la Schlag, le macronisme a réussi le double exploit de maîtriser les règles de la démocratie politique et de considérer les organismes représentatifs de la démocratie sociale comme quantité négligeable. Je rappelle un autre petit refrain, chers membres de notre gouvernement.
On est là, même si Macron ne le veut pas, nous on est là. Bon, vous voyez ce que je veux dire? Bon, et triste France.
Bon, allez, je vais clôturer là ma chronique. Malgré ce pessimisme, voilà, j'ai essayé de changer de ton. Alors, comme je l'avais dit, je propose un site, un livre. Alors, je vais proposer le site https://pétition.assemblée-nationale.fr. Une plateforme donc qui permet d'adresser des pétitions directement à l'Assemblée nationale et de signer des pétitions déjà enregistrées. Alors, il faut y aller, hein. Les pétitions ayant recueilli au moins 100 000 signatures, ce qui est déjà pas mal, sont mises en ligne sur le site de l'Assemblée nationale pour plus de visibilité. Après attribution de la pétition à une commission, les députés de la commission désignent un député rapporteur qui propose ensuite soit d'examiner le texte au cours d'un débat faisant l'objet d'un rapport parlementaire. J'espère que vous m'avez tous suivi, hein.
Oui, ben moi, ma maman, elle m'a toujours dit que c'était pas beau de rapporter.
Ben voilà. Bon, ben là pour une fois, allez-y. Soit de classer la pétition sans suite. Allez, espérons peut-être que quelques-unes pourront passer par le député rapporteur qui, enfin, arrêtera nos députés à l'Assemblée nationale. Mais les présidents de l'Assemblée nationale peuvent également décider d'organiser un débat en séance publique sur une pétition ayant recueilli au moins 500 000 signatures. Ouh là là, ça commence à faire beaucoup. Issus d'au moins 30 départements ou collectivités d'outre-mer. Oh là 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 là! Alors, allez signer, allez sur ce site. Donc, je le répète parce que je crois que j'avais un petit peu bafouillé. Donc, /, pétition.assemblée-nationale.fr. Allez-y, signez, mettez des pétitions en ligne, remplissez les pages. Alors, je vous propose aussi un livre. Eh bien, ce sera celui de Tartuffe de Molière. Pièce en 5 actes et en vers de 1669. Bon, j'ai pas été très originale, j'ai pas cherché d'autres titres, mais, figurez-vous que Tartuffe, on le lit quand ? Eh bien, quand on est au collège, par obligation. Et on devrait bien le relire quand on est adulte. Molière dénonce d'une façon assez comique l'hypocrisie religieuse. Il faut rappeler qu'au XVIIe siècle, le Parlement de Paris interdit toute représentation autour de la religion. Pour la petite histoire, le jeune Louis XIV a offert, figurez-vous, 3 journées de divertissement à quelques 600 invités sous le titre des plaisirs de l'île enchantée à Versailles. Ça vaut bien une journée à Villers-Cotterêts quand même, hein ? Plus, hein ? Bon, mais cette pièce a eu du mal à passer en titre. Ça a été l'imposteur, puis après le Tartuffe et enfin Tartuffe. Donc aujourd'hui, si vous voulez lire, c'est Tartuffe de Molière.
Et là, c'est Tartuffe ou l'imposteur.
Ou l'imposteur.
Le titre est définitif, c'est ça. C'est d'accord. Tartuffe ou l'imposteur.
Ou l'imposteur. Ah, donc l'imposteur est revenu en second. Alors, Tartuffe, du nom italien Tartufo, nom d'un personnage d'hypocrite dans la comédie italienne dell'arte. Ce qui veut dire dévot, bigot, t'as un autre terme, Poupa ? Tartuffe, tartufferie,
non.
Bon. Eh ben voilà, je crois que je vous ai proposé ce site, ce livre. Ben, la chronique arrive à la fin, à cette fin. Mais avant de vous quitter, parce que j'ai parlé librement encore aujourd'hui, je veux dire une fois de plus merci à Radio Doc et dire qu'il faut continuer à soutenir les médias résistants, petits et plus grands, qui laissent la parole et militent pour la liberté d'informer et la liberté d'expression. Et c'est toujours, toujours le même refrain qui doit revenir. Il faut à chaque fois s'en souvenir. Allez, je vous laisse à la semaine prochaine, mais avec une chanson quand même de Carmen Maria Vega, c'est ça, Poupa ? Et la chanson, c'est...
S'il pleuvait des larmes.
Il pleut.
C'est chanté par Carmen Maria Vega, extrait de son tout nouvel album, mais c'est une chanson de Boris Vian.
De Boris Vian, voilà. Je vous laisse et je vous dis à la semaine prochaine.
S'il pleuvait des larmes lorsque meurt un amour, s'il pleuvait des larmes lorsque les cœurs sont lourds sur la terre entière pendant 40 jours, des larmes. les armes, fait sauter les décors sur la terre entière. Il n'y aurait plus rien que les larmes amères des deuils du destin.